France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le lundi 15 mars. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une nouvelle étape dans la campagne de vaccination. Les pharmacies entrent dans la boucle. La grande majorité des 21 000 officines sont prêtes. Mode d'emploi dès le début du journal, après les autres titres, Agnès.
Le vaccin AstraZeneca, la situation en Île-de-France, la légalisation du cannabis. Jean Castex hier soir sur Twitch. Inédit sur la forme, convenu sur le fond. 400 euros par mois pour les jeunes sans ressources, c'est une initiative de la métropole de Lyon et c'est une première en France. T'as pas les codes Netflix, la plateforme américaine part en guerre contre cette petite combine très utilisée.
Très.
Et puis les handballeurs français seront aux Jeux de Tokyo, oui, mais sans garantie de podium.
Invité et rendez-vous de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Oui, la situation est critique, tendue, presque hors de contrôle en Ile-de-France. Parole ce matin au directeur médical de crise de la PHP, doyen de la faculté de médecine, Bruno Rioux, qui parle rarement, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale avec le président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale, Jean-Luc Mélenchon, au micro de France Inter. Le standard est ouvert, 01 45 24 7000. Et puis ne manquez pas, à 7h15, le reportage exceptionnel à Raqqa de notre envoyé spécial Omar Waman, 10 ans après le début de la guerre en Syrie.
France Inter.
C'est donc le jour J pour les 18 400 pharmacies qui se sont portées volontaires pour participer à la campagne de vaccination. Un peu plus de 36 000 flacons du vaccin AstraZeneca ont été distribués. Priorité est donnée aux personnes de 50 à 74 ans, dont avec des comorbidités. Quentin Pérez de Tudela s'est rendu à la pharmacie du Roi René à Aix-en-Provence, où tout est prêt. Reportage.
Devant ses étagères de médicaments, Julien jongle entre les clients et le téléphone pour les prises de rendez-vous vaccination.
On a peut-être dû, sur la semaine dernière, recevoir 40 appels lissés sur la semaine. Oui, il y a une grosse attente à ce sujet.
Déjà 30 personnes sur liste d'attente, pas le choix. Au sous-sol, il n'y a qu'un seul flacon conservé au frigo.
Alors,
entre 2 et 8 degrés.
Le précieux est ici, qui est d'ailleurs très bien emballé. Dans son pique-mousse, voilà notre dose de vaccin.
Sous la petite capsule rouge d'AstraZeneca, de quoi vacciner 10 personnes, 11 peut-être avec les bons gestes.
Ça va être de désinfecter le flacon après chaque injection. Des petits gestes techniques sur la façon de bien prélever le produit dans le flacon.
Le pharmacien et son équipe ont donc été formés pour limiter les pertes.
La seringue sert à prélever le produit dans le flacon et sert de suite à injecter le produit dans le bras du patient.
Avant de se faire piquer, il faut remplir un questionnaire et après l'injection, attendre un quart d'heure.
S'il y a une petite symptomatologie, on pourra prendre en charge au comptoir. Et s'il y avait des choses plus graves, nous contacterons le 15 si vraiment quelque chose ne va pas.
Julien écoulera son unique flacon désormais aujourd'hui, en attendant la prochaine livraison.
Le reportage de Quentin Pérez des Tudela de France Bleu Provence. Des livraisons d'AstraZeneca, justement, coup de colère hier de la ministre déléguée à l'Industrie, pour qui AstraZeneca, en ne livrant qu'un quart des doses promises au premier trimestre, n'a pas respecté ses engagements. Agnès Pannier-Runacher estime que les objectifs de vaccination du gouvernement restent les mêmes. D'autres vaccins viendront compenser ce manque. Quant à la sûreté du vaccin, le Premier ministre, invité hier sur la plateforme de vidéo en direct Twitch, a rassuré. Il n'a aucun doute sur ce vaccin. Simon Le Baron.
Un Premier ministre masqué, mais sans cravate, dans la chambre d'un journaliste.
Bonsoir Samuel.
Samuel Etienne relaie les questions qui défilent à l'écran, la plupart sur la situation sanitaire.
Bonjour Monsieur Castex, envisagez-vous un confinement en Île-de-France ? C'est vrai que la situation ne s'améliore pas.
La situation ne s'améliore pas en Île-de-France, c'est tout à fait exact.
Jean Castex, lui, n'est pas là pour faire des annonces.
Reconfiner, c'est un acte extrêmement fort. Faisons tout ce qui est en notre pouvoir, chaque jour qui passe est un jour de gagner, pour éviter ce confinement. Mais, s'il est nécessaire, nous y procéderons.
Il s'en tient à sa position des derniers jours sur l'Île-de-France, comme sur le vaccin AstraZeneca, suspendu par précaution dans plusieurs pays.
Je peux vous assurer qu'effectivement, si j'avais le moindre doute...
Vous demanderiez la suspension.
Absolument. Mais, à ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner.
Viennent ensuite les sujets plus inattendus, la légalisation du cannabis, pas la tasse de thé du Premier ministre, contrairement au match de rugby France-Angleterre. La forme est inédite.
On me dit que j'ai un côté, vous savez, un peu vintage, que j'assume totalement, donc je découvre.
Le fond, beaucoup moins. Langue de bois se plaignent de nombreux internautes. Ils étaient plus de 80 000, autant que pour François Hollande il y a une semaine. Emmanuel Macron fera sans doute mieux avec les stars de YouTube McFly et Carlito.
La situation en Île-de-France reste très tendue, les services de réanimation sont pleins, les transferts de patients vers d'autres régions vont se poursuivre. 6 par jour en avion et une opération plus massive en train en fin de semaine. Les hôpitaux franciliens continuent également de déprogrammer les opérations non urgentes. Un travail délicat, explique Frédéric Saillant. Il est chirurgien orthopédiste à l'hôpital Cochin.
On regarde une fois par semaine, en gros on fait ça avec l'anesthésiste, on regarde tous les dossiers des 15 jours à venir, puis on choisit. Alors on a des patients qui ont des comorbidités, essentiellement des insuffisances cardiaques, insuffisances rénales ou insuffisances respiratoires par exemple. Et ces patients-là sont évidemment plus à risque que d'autres d'aller en réanimation après une intervention chirurgicale ou alors de faire une forme grave de coronavirus si jamais ils l'attrapaient. Donc ce sont ces patients-là qu'on va déprogrammer en priorité. Quand on dit aux patients qu'on les déprogramme et qu'on leur donne aucune perspective. Là, en général, ils sont vraiment très déçus et un peu anxieux, un peu angoissés de ne pas avoir de date. Donc, on essaye de leur proposer une nouvelle date opératoire pour qu'ils aient une perspective, mais en leur disant bien que cette date peut être éventuellement à nouveau décalée.
Un propos recueilli par Cécilia Arbona. Au niveau national, plus de 4100 malades sont soignés en réanimation et plus de 26 000 nouveaux cas de Covid enregistrés au cours des dernières 24 heures. Dans ce contexte sanitaire et économique, le Premier ministre réunit aujourd'hui en visio les partenaires sociaux pour discuter notamment des aides à supprimer, de celles à maintenir ou de celles à créer. Nous y reviendrons dans le journal de 7h30. La métropole de Lyon a, elle, décidé de créer un RSJ, un revenu de solidarité jeune, 400 euros par mois pour les 18-24 ans qui ne bénéficient d'aucune aide. Et c'est une première. Reportage de Christophe Vincent.
La métropole va débloquer 10 millions d'euros dès le 1er juin. Elle cible 2000 jeunes, son président vert Bruno Bernard.
Il y a énormément de trous dans la raquette. Ça peut être des sans-domicile fixe, ça peut être des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans la garantie jeune ou qui en sortent en échec. Ce dispositif, c'est pour aider pendant quelques mois et les remettre dans des dispositifs existants qui ne couvrent pas tous les champs aujourd'hui.
Les jeunes sans ressources de la métropole de Lyon pourront toucher 400 euros par mois pendant 2 ans, sauf s'ils bénéficient du RSA, de la garantie jeune ou d'une bourse d'études. Marvin répond à ces critères.
Quand on a vraiment zéro, on a tendance à penser que argent. On sort le matin, on se réveille, on ne va pas chercher du travail parce qu'il nous faut de l'argent, ne serait-ce pas pour manger. Quand on a zéro, c'est très compliqué. C'est un grand coup de pouce.
Les effets de la crise, Sarah Kleinberg les mesure tous les jours dans les centres d'hébergement qu'elle dirige.
Ils occupent des petits boulots dans la restauration, garde d'enfants et 50% d'entre eux ont perdu leur emploi pendant la crise. C'est des boulots qui aujourd'hui n'ont pas rouvert. Donc on a beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'emploi et qui ne vont pas bien.
Si l'on n'accompagne pas les bénéficiaires, disent les professionnels, cette aide sera inopérante. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Et puis en Italie où le cap des 100 000 morts a été franchi, les trois quarts des habitants sont reconfinés jusqu'au 6 avril, avec écoles, restaurants, magasins et musées fermés. Le Portugal, lui, desserre un peu l'étau avec la réouverture des crèches et des écoles.
Il est 7h08, Agnès. Après 10 ans de guerre civile, la Syrie est un champ de ruines.
10 ans après les premières manifestations contre le régime, le bilan est terrible. Plus de 388 000 morts, dont 22 000 enfants. Et Bachar el-Assad a réussi à se maintenir au pouvoir. Mais quel pouvoir quand la Russie, l'Iran et la Turquie sont désarmés les acteurs décisionnaires. Christian Chéneau.
La Syrie est aujourd'hui une terre fragmentée. Le régime de Bachar al-Assad règne sur les deux tiers du pays, notamment les grandes villes comme Damas, Alep ou Homs. Les Kurdes contrôlent un petit tiers. Le reste, notamment la poche d'Idlib, est aux mains des rebelles islamistes pro-turcs. Le pays vit désormais sous influence étrangère. Les Russes ont installé leur base militaire à Tartous, Latakié ou encore Palmyre. Ils ne sont pas prêts de quitter le pays, explique Fabrice Balanche, chercheur à l'université Lyon 2.
La Syrie est vraiment leur porte-avions, leur base principale au Moyen-Orient. Ils ont mis la main sur quelques ressources pour se rembourser des cargaisons d'armement, du soutien militaire. Donc c'est phosphate, c'est les permis d'exploitation pour le gaz et pour le pétrole. Bon, il n'y a pas grand-chose évidemment à tirer en Syrie. Mais là, oui, la Syrie est devenue vraiment un pays satellite de la Russie.
L'Iran, de son côté, a envoyé ses conseillers militaires sur place qui encadrent des milices de combattants chiites, irakiens et afghans. La Turquie, quant à elle, occupe une bande frontalière au nord de la Syrie. Autant de puissances étrangères qui s'enracinent dans ce pays dévasté.
Et nous reviendrons en Syrie, à Raqqa, dans le Zoom de France Inter à 7h15. Les fonds d'investissement auront eu la peau d'Emmanuel Faber. Le patron de Danone, qui avait déjà renoncé à une partie de ses fonctions début mars, a été évincé hier soir de la présidence du géant français de l'agroalimentaire. En cause d'une rentabilité inférieure à celle de ses principaux concurrents, il est remplacé par Gilles Schnepp. Nous y reviendrons dans le journal de 8h. Fini le temps où Netflix se gargarisait de ses codes que l'on échangeait sous le manteau. Le géant américain de la vidéo en ligne par abonnement teste actuellement une méthode de vérification des comptes. En jeu, Alexandra Hakoun, plusieurs milliards de dollars.
Surtout, Netflix le fait savoir. L'annonce a fait l'effet d'une bombe. Le partage de codes à l'extérieur du foyer est une pratique extrêmement répandue, tout le monde le sait, y compris les éditeurs, qui pendant longtemps n'ont pas fait grand-chose pour endiguer cette pratique qu'en 2016, Reed Hastings jugeait positive. Les personnes utilisant le code de quelqu'un d'autre finissent par prendre leur propre abonnement. C'est une façon de faire marcher le bouche à oreille, déclarait alors le big boss de Netflix. Canal+ en a même fait un argument publicitaire il y a peu.
Allô ?
Oui, salut, c'est Cad.
Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal, s'il te plaît ?
Comment ça, tu utilises encore mes codes ? Eh oh, Cad, c'est pas parce qu'on a fait des sketchs ensemble il y a 1000 ans que tu peux les utiliser toute la vie.
Pour Netflix, le manque à gagner dépasserait les 9 milliards de dollars et maintenant que le marché arrive à maturité pour la firme, surtout aux États-Unis, des mois que le niveau d'abonnement stagne. Vrai ou pas, on n'en est qu'au test aux États-Unis et uniquement sur les télés. Ce petit coup de pression sur les utilisateurs clandestins qui se reconnaîtront devrait assurément booster le recrutement de nouveaux clients. Netflix, leader absolu, en a 204 millions répartis dans plus de 190 pays.
Alexandra Hakoun. Enfin oui, ils y seront. Les handballeurs français ont décroché leur billet pour les JO de Tokyo cet été, malgré leur défaite hier soir face aux Portugais 29 à 28. Depuis Barcelone 1992, les Bleus n'ont raté aucune Olympiade, mais que peuvent-ils espérer cette année? C'est le dossier médaillable du jour et il est signé Xavier Monferrand.
Les rois déchus espèrent toujours récupérer leur trône, même s'il est difficile d'être et d'avoir été. 5 ans maintenant après avoir laissé la couronne aux Danois, les Bleus iront à Tokyo pour tenter de la récupérer. Mais le vieux sage Michael Guigou est réaliste et préfère calmer les ardeurs.
Il faut être humble avec tout ça. Je crois qu'on parle beaucoup là depuis des années. On va chercher des titres, Sauf qu'on n'y va pas. On va souvent dans le dernier carré depuis 2017, mais on s'est fait dominer sur les demi-finales qu'on a disputées. Donc bien sûr qu'on a cette motivation derrière, mais ça passera par le travail.
Du travail et un peu de renfort, car pour les Jeux de Tokyo, les Bleus pourront compter sur le retour du patron, Nicolas Karabatic, absent ces derniers mois pour blessure. C'est tout sauf un détail pour l'ancien capitaine des experts, Jérôme Fernandez.
Je pense que si Nicolas avait été là au Mondial, la France aurait été en capacité de faire mieux que quatrième. Il aura de toute façon un rôle majeur dans le jeu, dans le vestiaire, dans la vie de groupe. C'est une grosse plus-value pour l'équipe de France de pouvoir récupérer Nicolas et d'aller au jeu avec Nicolas.
D'ailleurs, la dernière fois que les Bleus ont rapporté une médaille, le bronze, c'était lors du Mondial en 2019, sur un but à la toute dernière seconde de Saint-Nicolas, revenu prêter main forte en cours de compétition.
Et puis une mauvaise soirée pour le PSG hier soir, battu 2-1 par Nantes, avant-dernier du classement de Ligue 1.
Merci Agnès Soubiran. Le Zoom dans 3 minutes, reportage exceptionnel aujourd'hui à Raqqa, 10 ans après le début de la guerre en Syrie.